Saint François d'Assise, livre 4e, chapitre 1. Le solitaire. Désormais et jusqu'à sa mort, la vie de François n'a plus que deux objets. D'abord, le saint attaché à suivre jusque dans les moindres détails les leçons de l'Évangile, à la fois pour sa satisfaction propre et afin d'instruire ses frères par son exemple. Et en second lieu, il s'est efforcé de combler par de nouveaux écrits les lacunes qu'il sentait dans la règle confirmée par le pape et qu'il ne pouvait pas combler expressément dans cette règle même. Le temps était décidément passé où François, seul au début, puis en compagnie de ses frères, allait par le monde en évangéliste et en chanteur inspiré. Durant les années qui lui restaient encore à vivre, il ne devait plus agir que par sa plume et par le spectacle de sa vie privée. Une partie considérable de cette dernière période de la vie de François a eu pour théâtre la vallée de Rieti, qui jadis avait été déjà celui de l'une des premières missions du saint. Cette vallée s'étend, traversée par le torrent du Velino, depuis Terni jusque vers Aquila, et se trouve bornée d'un côté par les monts Sabins, de l'autre par la chaîne puissante des Abruzzes, aux cimes neigeuses enveloppées de nuages. Chacune des petites villes qui aujourd'hui comme alors sont suspendues au flanc des montagnes ou en recouvrent les sommets, gardait pour François des souvenirs des heureuses années où pas une de ses illusions n'avait encore été détruite et où vraiment, sans réserve, il avait cru à la possibilité de jeter un pont entre le ciel et la terre pour emmener avec lui tous les hommes dans le paradis. Plus tard, il avait appris à fond de quelle étoffe les hommes sont faits et reconnu que, comme dans l'Évangile, toujours l'un d'eux se voit arrêté par le soin de ses vaches, l'autre par celui de son grain, lorsqu'ils reçoivent l'invitation au banquet divin. Mais François comprenait aussi maintenant ce qui venait ensuite dans la parabole évangélique et comment le père de famille dans son royaume céleste s'était irrité et avait dit à ses serviteurs « Allez-vous-en par les rues et les ruelles de la ville, par le chemin et les sentiers, et amenez-moi tous les pauvres et les extropiés, les boiteux et les aveugles, de façon que ma maison se trouve remplie. » Et c'est avec plus de foi que jamais que François se répétait les promesses du sermon sur la montagne. Bienheureux sont les pauvres, bienheureux les pacifiques, bienheureux ceux qui ont le cœur pur. À présent, quand il parlera à ses frères, il ne le fera plus comme un chef ayant l'autorité sur eux. Il s'indignera bien encore contre les ministres et prélats qui tenteront d'entraîner ses frères où il ne veut point qu'ils aillent. Et l'on entendra s'écrier dans un éclat soudain et passager « Qui sont-ils, ceux qui ont osé séparer de moi mes frères ?» Mais d'une façon générale, il se remet de tout à Dieu et à ses Guttaldi. Si les frères mineurs s'écartent de leur idéal, il espère que les hommes les mépriseront, les réprimanderont et ainsi les refouleront sur la droite voie. Quant à lui, il ne se sent plus tenu à rien qu'à prier pour ses frères et à maintenir devant leurs yeux l'idéal par son exemple, afin qu'ils ne puissent avoir aucune excuse à leur négligence. Et en vérité, Dieu pourrait-il exiger autre chose d'un homme abattu par la maladie? C'est ici l'occasion de parler de la maladie, ou plutôt des maladies de Saint François, telles qu'elles se sont montrées, surtout dans les dernières années de sa vie. Sa santé, manifestement, n'a jamais été bien forte. Dès sa jeunesse, nous le voyons continuellement tourmenté par des accès de fièvre, et plus tard, ces jeûnes trop fréquents et trop prolongés ont achevé de ruiner son organisme. Le diable prenait plaisir à le désespérer en lui disant « Tous les pécheurs peuvent obtenir leur salut, à l'exception de celui qui s'est détruit lui-même par des mortifications excessives. » Rarement il mangeait des mets apprêtés, ou bien quand il le faisait, il les gâtait en y répondant des cendres avec ses touchantes paroles. Notre sœur, la cendre, est chaste. Il ne dormait que très peu d'heures et presque toujours assis, ou bien avec une pierre ou une bûche de bois en guise d'oreiller. Au Carcheri, comme plus tard sur l'Alverne, il n'avait pas d'autre lit que la pierre nue du rocher. On comprend sans peine que 20 années de cette vie aient entièrement dévasté son pauvre corps. D'abondantes hémorragies lui étaient venues, et maintes fois les frères l'avaient cru mourant. Il faut ajouter à cela que, durant son séjour en Orient, il avait été atteint de la maladie d'yeux, qui est spéciale au climat égyptien, de sorte qu'il y avait des moments où il était presque aveugle. Quoi d'étonnant si dans une lettre de ce temps, nous l'entendons s'appeler Homo Caducus, un homme sur son déclin. C'est presque fatalement qu'il s'est trouvé amené à devoir se contenter désormais de cet apostolat par écrit, où d'ailleurs nous apparaît jusqu'au bout l'ardeur de son zèle à entraîner avec lui les hommes dans la béatitude céleste. Nous possédons 5 lettres ou circulaires envoyées par lui pendant cette dernière période de sa vie. La lettre à tous les chrétiens, la lettre au chapitre de Pentecôte de 1224, où il n'avait point pu assister, la lettre à tous les ecclésiastiques, la lettre à tous les custodes et la lettre à toutes les autorités. À quoi il convient de joindre encore son testament. Le testament adressé par lui aux Clarisses et ses poèmes religieux, notamment son Cantique du Soleil. Et enfin, c'est sûrement de la même période que date un petit écrit ou billet adressé au frère Léon, dont le manuscrit autographe nous a été gardé. Certes, l'on ne doit point s'attendre à trouver dans les lettres de François d'Assise des pensées nouvelles et surprenantes. C'était au contraire ses anciennes pensées, ses pensées de toujours qu'il voulait affirmer et faire pénétrer dans l'esprit de tous. Sans compter que ces lettres s'adressent toutes à des cercles différents de lecteurs, de telle sorte que François n'a pu avoir aucun motif pour chercher à éviter les répétitions. Aussi, un lecteur distrait ou indifférent risquera-t-il de trouver les 5 lettres bien pauvres d'idées et bien fatigantes avec les 2 ou 3 leitmotivs qui y reviennent sans cesse. Mais, comme le dit justement Boehmer, si l'on songe à la personnalité vivante qui se tient derrière tous les mots de ces lettres, au fou d'Assise dans toute sa naïveté et dans toute sa plénitude d'amour, on sentira la parole morte s'animer, se changer en chair vivante, et la pauvreté de l'esprit apparaîtra comme une richesse. Car le peu que possédait François ne lui était pas accessoire. Ce peu qu'il possédait le remplissait, le possédait tout entier. Et de là vient que ses discours, comme sa personne, faisait aux hommes l'effet d'une révélation, tandis que pour un observateur de sang-froid, ses discours ne contenaient rien de remarquable. À lire d'un bout à l'autre les lettres de saint François, on n'y découvre effectivement rien d'autre que ce que l'on connaît déjà par ses admonitions, par sa regula prima, par ses lettres à Élie. Ce sont toujours les mêmes avertissements d'avoir à aimer Dieu et à le servir, à mener une vie de conversion, à jeûner. en comprenant par là à la fois l'abstinence corporelle et l'abstinence morale des vices et des péchés, à aimer ses ennemis et à les secourir, à ne point rechercher la sagesse temporelle ni les hautes situations, à beaucoup prier, à se confesser et à communier, à essayer de réparer le mal que l'on a pu faire. Ce dernier avertissement a fourni à François l'occasion de nous peindre, dans une de ses lettres, une sorte de vision morale, le tableau de la façon dont meurt un pécheur. Le corps devient malade, écrit François, et la mort approche. Parents et amis viennent et disent au malade, « Mets ordre à tes affaires. » Et sa femme et ses enfants et ses amis et tous ceux qui dépendent de lui affectent de pleurer. Et le malade regarde autour de lui et voit ses larmes, et trompé par cette émotion feinte, se dit « Oui, de tout mon corps et de toute mon âme, je veux m'abandonner à vos fidèles mains avec tout ce que je possède. » Mais en vérité, cet homme est damné qui livre en de telles mains son âme, son corps et tout ce qu'il possède, et qui se fie à de tels sentiments. C'est pour cela que le Seigneur a dit, par la bouche du prophète, « Celui-là est maudit qui se livre à un homme. » Et aussitôt, parents et amis laissent venir le prêtre, et le prêtre dit au malade, « Veux-tu faire pénitence de toutes tes fautes ?» Le malade répond, « Oui. » Et le prêtre demande, « Veux-tu offrir compensation dans la mesure où tu le peux à tous ceux que tu as trompés et privés de ce qui leur revenait ?» Mais la réponse du malade est non, et le prêtre lui dit « Pourquoi ce non ?» À quoi il répond « Parce que j'ai tout remis déjà à ma famille et à mes amis. » Et là-dessus, il perd la parole et meurt sans avoir racheté son injustice. Or, il faut que tous sachent bien ceci. Chaque fois qu'un homme meurt en état de péché grave, sans avoir réparé ses torts, et tandis qu'il aurait pu le faire, mais ne l'a point voulu, aussitôt le diable s'empare de l'âme de cet homme. Et combien sont grandes l'angoisse et la souffrance d'une telle âme, c'est ce que personne ne peut savoir que l'homme seul qui l'éprouve. Et tous les dons, et tous les pouvoirs, toute la sagesse et toute la science que cet homme croyait posséder, tout cela lui est enlevé. Et il laisse ses biens à sa famille et à ses amis, et ceux-ci se les partagent et disent ensuite « Que damnée soit son âme, puisqu'il n'a pas gagné plus de biens pour nous les laisser. » Et ainsi, il perd tout en ce monde, et dans l'autre, il souffre de la torture éternelle de l'enfer. Ce tableau nous fait voir dans la conception de la nature humaine que nous y découvrons une profondeur d'amertume dont nous n'apercevons guère d'autres traces chez François d'Assise. Certes, ce n'est pas un portrait sentimental que l'auteur nous dessine là de ces dépendants, égoïstes et féroces qui entourent le lit du mourant et volontiers le laissent aller en enfer, pourvu qu'à ce prix, ils obtiennent de lui un testament en leur faveur. Et lorsqu'ensuite, par leur émotion feinte, ils ont amené l'homme qu'ils affectent d'aimer à terminer sa vie coupable par une dernière faute, impossible à réparer, voici qu'ils le maudissent de n'avoir pas amassé plus d'or pour eux, aussitôt qu'il a fermé les yeux à ce monde et les a rouverts dans la torture éternelle. Toute sa vie, ils n'ont vu en lui que l'esclave du travail, condamné à amasser pour eux, sans qu'il leur importe que ce soit par des moyens honnêtes ou criminels. Que cet homme ait mis en jeu sa béatitude éternelle afin de leur amasser un héritage suffisant, c'est à quoi pas un d'entre eux n'a songé un seul moment, tandis qu'il vivait. Pourquoi donc y penserait-il maintenant à sa dernière heure? On croirait lire l'une des plus saisissantes nouvelles de Léon Tolstoï, par exemple celle qui nous raconte comment Ivan Ilitch, pendant sa longue maladie mortelle, couché dans son lit, découvre que personne ne l'a jamais aimé, que sa femme n'a jamais vu en lui qu'un moyen pour ses fins à elle, et que ses enfants élevés dans les mêmes sentiments le considèrent comme une vieille bête, facile à taper, mais qui malheureusement est en train de faire ses paquets. Mais plus misérable encore que cet Ivan Hiche est le mourant du petit récit de François d'Assise dont les yeux ne s'ouvrent que quand il est trop tard, et trop tard pour l'éternité. Dans sa lettre aux frères réunis pour le chapitre de 1224, dans ses lettres aux ecclésiastiques et aux custodes, ou supérieurs de couvent, François tâche surtout à rappeler et à préciser les prescriptions qui, dans la règle définitive, ont dû être effacées. Ainsi, il exhorte les frères à avoir plus de respect pour le sacrement de l'autel. Il leur dit que lorsque plusieurs prêtres sont réunis, c'est assez qu'un seul dise une messe, tandis qu'il suffit aux autres d'y assister. Il les engage à ramasser tout papier sur lequel se trouvent écrites des paroles saintes et à le conserver honorablement. Il recommande de réciter les offices avec plus d'égard pour le recueillement intérieur que pour l'harmonie extérieure du chant. Et sans cesse François répète, aussi bien aux prêtres qu'aux supérieurs de couvent, l'obligation de tenir merveilleusement propre les vases sacrés et les linges de l'autel, et d'entourer de soins pieux le Saint-Sacrement. Lorsque celui-ci, durant la messe, se trouve sacrifié sur un autel, tous doivent s'agenouiller, louer et remercier Dieu, et les cloches de l'église doivent être mises en branle, de façon que tout le monde alentour puisse prendre sa part de ces louanges pieuses. Et moi, le frère François, votre petit serviteur, je vous prie et vous conjure, au nom de l'amour qui est Dieu même, et avec la volonté de vous baiser les pieds, je vous conjure d'accueillir avec humilité et amour ces paroles et toutes les autres de notre Seigneur Jésus-Christ, et de les pratiquer et de les suivre complètement. Et quant à ceux qui ne savent point lire, ceux-là doivent se les faire lire souvent et les avoir près d'eux et les suivre jusqu'au bout en vivant saintement, car ces paroles sont l'esprit et la vie. Et celui qui ne le fera point, il aura à en rendre compte le jour du jugement, devant le tribunal du Christ, et que tous ceux qui reçoivent la parole divine avec joie et la comprennent et la suivent pour l'exemple des autres et y restent fidèles jusqu'à la fin, que cela soit béni de Dieu le Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est vraisemblablement vers ce même temps que François eut l'idée d'envoyer aux frères de toutes les provinces de beaux ciboires étincelants en leur recommandant de donner un de ces vases neufs aux prêtres de l'endroit, partout où ils se trouveraient, le corps du Sauveur conservé dans des conditions indignes de lui. Il voulait également envoyer partout de beaux et bons fers à hosties, qui puissent servir à cuire des hosties belles et pures. Aucun de ces deux plans, cependant, n'a dû être réalisé de la façon générale que rêvait François. Mais on peut voir encore, au couvent de Greccio, un fer à hostie qui a été donné à ce couvent par François lui-même. La lettre à toutes les autorités, et notamment à tous les podestats, consuls, magistrats et recteurs, est un témoignage du zèle de saint François à exercer aussi son action en dehors de l'Église sur toute la communauté humaine. La religion n'était point pour lui une affaire privée, mais bien véritablement un principe social. Et c'est pourquoi il engage dans sa lettre tous les hommes haut placés à ne point se laisser distraire par leurs nombreuses occupations temporelles de l'unique chose indispensable pour eux. Car, comme allait le dire Verlaine, 700 ans plus tard, et puis, quand la mort viendra, que restera-t-il? Aussi François invite-t-il tous ces grands personnages à se rendre à la Sainte Communion tout à fait comme le plus humble de ses subordonnés. Et puisqu'il se trouve que la puissance leur est confiée, François leur affirme ils en feront un bon usage si chaque soir, par l'entremise d'un héros ou d'une autre façon, ils donnent un signal qui rappelle au peuple la nécessité de prier et de louer Dieu. Et du même temps, sans doute, est aussi la lettre au frère Léon, du temps où l'âme de ce frère, comme celle de son maître, ardait encore dans toute leur fraîcheur le mécontentement et le souci de toutes les corrections et suppressions faites à la règle. Cette lettre n'est pas, à beaucoup près, d'un style aussi soigneusement élaboré que les grandes lettres circulaires dont je viens de parler et à la rédaction desquelles a peut-être collaboré César de Spire, qui était revenu d'Allemagne le 11 juin 1223. Voici d'ailleurs la traduction complète de cette lettre. « Frère Léon, salut et paix de ton frère François. En vérité, je te dis, mon fils, et comme une mère, que toutes les paroles que nous avons dites en chemin, je les résume en te conseillant ceci. De quelque façon que tu estimes qu'il convient pour toi de plaire à Dieu et de marcher sur ses traces et de suivre sa pauvreté, faites-le avec la bénédiction de Dieu et ma permission. Et si plus tard il te paraît nécessaire de me consulter, soit pour le salut de ton âme ou pour une autre consolation, et que tu désires, Léon, venir à moi, viens. » Évidemment, François donne ici au frère Léon une permission de la même sorte que celle que nous l'avons vue donner à César de Spire. Le verbe pluriel, faciatis, pouvait, comme le pense Sabatier, signifier que la permission était accordée non seulement à Léon, mais encore à d'autres frères partageant les mêmes sentiments. À prendre les choses en rigueur, c'était là une permission que François n'avait pas le droit de donner, car la puissance législative ne reposait plus entre ses mains, ou en tout cas, plus entre ses seules mains. Mais il semble que sur ce point, François ne se soit jamais fait une idée bien nette de sa situation. Et ainsi, Eccleston nous raconte que après que la règle eut été confirmée et promulguée, François a encore émis un ordre en vertu duquel les frères, lorsqu'ils étaient invités à table dans une maison, ne devaient point manger plus de 3 bouchées, afin de ne pas scandaliser les laïcs par leur trop grand appétit. Aussi bien, pour plus d'un frère, François est-il toujours resté le véritable chef de l'ordre, ce qui explique que tout de suite après sa mort ait éclaté la lutte poursuivie durant 3 siècles entre ceux qui continuaient à observer la règle littéralement, ayant en cela la permission du saint, et ceux qui voulaient adopter les adoucissements concédés par la cour de Rome. Saint François d'Assise, livre 4, chapitre 2, l'exemple chrétien. Cependant, le grand objet de François était toujours d'instruire les hommes par son exemple, plus que par ses paroles. Il faut que tous les frères prêchent par leurs œuvres, avait-il dit naguère dans la règle de son ordre. Et toujours il avait été le premier à remplir cette prescription. Aussi, Thomas de Celano a-t-il eu raison d'affirmer que dans sa langue et dans sa vie, François avait été le même homme. De ce profond besoin d'édifier par son exemple, maintes preuves nouvelles nous sont offertes par l'histoire de ses séjours dans la vallée de Rieti aux dernières années de sa vie. Ainsi, durant tout un avant en 1223 ou en 1224, nous le voyons se retirer dans l'ermitage de Poggio, Bustone. Mais comme le mauvais état de son estomac ne lui permet plus de manger des mets préparés à l'huile, il est forcé de se faire faire des mets spéciaux préparés à la graisse, lardo, et cette dérogation aux règles de l'Église sur le jeûne de l'avant lui vaut tant de scrupules et de remords que le jour de Pâques, il ne peut s'empêcher de proclamer sa faute devant le peuple assemblé. « Vous êtes venu ici, dit-il dès le début de son discours, parce que vous pensiez que j'étais un homme très pieux et craignant Dieu. Eh bien, il faut que vous sachiez que pendant tout cet avant, j'ai mangé des mets préparés au lard. » Pareillement, déjà, il avait fait pendant un hiver précédent, l'hiver de 1220-1221, pris d'une des crises très fréquentes désormais de sa maladie, il s'était laissé aller à manger de la viande cuite. Mais aussitôt qu'il s'était senti un peu plus fort, il avait ordonné à son vicaire, Pierre de Gattani, de le traîner à demi nu et une corde au cou par les rues de la ville au sortir de sa prédication dans la cathédrale. Puis, étant monté sur le pilori de la grande place, il avait fait confession à la foule du péché de gourmandise qu'il avait commis. Une autre fois, ses frères, toujours en raison de son état maladif, l'avaient obligé à se laisser coudre un morceau de fourrure à l'intérieur de sa robe pour que cette fourrure lui réchauffât le ventre. Mais François avait exigé que l'on cousît également un morceau de fourrure sur le dehors de la robe, afin que tout le monde pût voir qu'il portait un vêtement fourré. Il aimait à dire « Je ne veux pas être autre chose dans ce que l'on ne voit pas de moi que dans ce que l'on en voit. » Lorsque, invité quelque part, il avait mangé un mets un peu savoureux, toujours il s'empressait de le raconter à ses frères dès son retour parmi eux. Il entendait que chacun le connut de part en part. S'il lui arrivait, après avoir fait une aumône dans les rues d'Assise, d'éprouver un certain contentement intérieur à l'idée d'avoir bien agi tout de suite, il s'en accusait devant le frère qui l'accompagnait. Et dans son tableau de ce que devait être un général d'ordre idéal, il avait eu soin d'exiger que celui-ci ne se permît jamais de manger de bonnes choses en cassette, mais que toujours il laissa voir au frère tout ce qui venait sur sa table. Mais toujours, avant tout le reste, son zèle avait pour objet la pauvreté. Il disait que si c'était un bonheur de faire l'aumône, c'en était un aussi de la recevoir. Il disait que le pain obtenu par mendicité était le pain des anges, et il voulait que les frères qui revenaient de mendier chantassent des hymnes de louanges sur tout le chemin du retour. Sans cesse, il avait sur les lèvres les versets des psaumes et des évangiles qui célèbrent la pauvreté. Dans un de ses ermitages, l'un des frères lui ayant dit « Je viens de ta cellule », jamais plus il ne consentit à faire usage de cette cellule qu'on avait dit être à lui. Une maison de poutres non rabotée lui paraissait encore un excès de luxe. Il estimait qu'une cabane de branchages et de boue pouvait fort bien lui suffire. Et de préférence encore, il demeurait dans les creux des rochers, comme les renards de l'Évangile. Matthieu, chapitre 8, verset 20. La maison de pierre que les citoyens d'Assise lui avaient fait construire auprès de la Portioncule, tout de suite il avait essayé de la démolir. Et déjà il avait enlevé une partie du toit lorsque le podestat réussit à l'arrêter dans cette destruction en lui interdisant d'endommager la propriété de la commune. Il était d'avis que le souci du pain pour le lendemain ne convenait qu'à des personnes vivant dans le luxe. Quant à ses frères, il leur défendait de préparer les provisions le soir pour le jour suivant, comme aussi d'accepter en aumône plus de provisions qu'ils n'en pourraient consommer tout de suite. Pour donner à son habit une apparence misérable, il avait coutume d'y faire mettre ça et là de grosses pièces disparates. Et lorsqu'il avait besoin d'un nouvel habit, il attendait jusqu'au jour où une âme charitable lui en donnait un. Les frères qui n'aimaient pas à aller mendier, il les appelait les frères guêpes, signifiant par là qu'ils étaient tout prêts à manger le miel dans la ruche, mais se refugiaient à prendre la peine de le recueillir. Et malgré tout cet effort constant vers la pauvreté, jamais François n'admettait que lui-même ni ses frères fussent assez pauvres. « Nous devrions être honteux, » disait-il, en voyant passer un mendiant tout vêtu de haillons. « Nous voulons qu'on nous appelle pauvres, et le monde entier nous renomme pour notre pauvreté, et voici un homme qui est bien plus pauvre que nous, sans que personne l'en loue. » Mais aussi les mendiants de ce genre étaient-ils sacrés pour François, qui ne permettait point qu'un frère en dît du mal ou parût dédaigner leur misère. Et bien volontiers à ces véritables pauvres, il donnait tout ce qu'il possédait, lui le prétendu pauvre, son manteau, un morceau de sa robe, même son pantalon. « Tout cela leur appartient de droit, » déclara-t-il, « et je me regarderai comme un voleur si je retenais pour moi leur propriété. » Une autre de ses expressions favorites à ce propos était « Il faut que nous rendions à notre frère le pauvre ce que nous lui avons emprunté. Quand on lui donnait quelque chose, toujours il se préparait à devoir le donner à un autre pauvre, plus digne de secours. Les frères avaient souvent beaucoup de peine à faire en sorte que leur maître eût des habits sur le corps, et cela d'autant plus que jamais ils ne voulaient porter de vêtements neufs, mais toujours des objets ayant déjà servi. Plus d'une fois, l'un des frères s'est vu forcé de céder à François la moitié de son propre vêtement et un autre frère une autre moitié. De temps en temps, les frères s'ingéniaient à ravoir ses vêtements de ceux à qui ils les avaient donnés. Mais François, dès qu'il s'apercevait de ses tentatives, avertissait le mendiant en question de ne rendre ce qu'il avait reçu qu'en échange de bon argent. C'est ainsi que, à Celle, les frères ont été obligés de racheter à une vieille femme le manteau de saint François. Souvent, celui-ci, en faisant l'aumône, avait en vue une intention particulière. Près de l'ermitage de Celle, par exemple, il avait rencontré un homme qu'il avait connu autrefois et qui se trouvait à présent dans l'état le plus misérable. Au cours de l'entretien, cet homme s'était plaint surtout des insultes qu'il avait à subir de la part de son maître et avait laissé voir qu'il ressentait pour ce maître une haine implacable. « Eh bien, lui dit François, « je te ferai volontiers cadeau de mon manteau, si tu consens à pardonner à ton maître le tort qu'il a contre toi. » Et le cœur du pauvre homme fut bouleversé par ces mots et consentit à oublier sa haine et se remplit de douceur de l'Esprit divin. À Rieti, François découvrit une pauvre femme qui, de même que lui, avait les yeux malades. À celle-là, il donna non seulement des vêtements, mais encore une douzaine de pains. Une autre pauvre femme qui avait ses deux fils parmi les frères vint à la portioncule et se plaignit de sa détresse. Alors François, n'ayant rien d'autre à lui donner, lui donna le Nouveau Testament qui servait pour les offices du culte afin qu'elle le vendît. « Car je suis certain, dit-il, que Dieu est plus satisfait de nous lorsque nous venons en aide à nos mères que lorsqu'il nous voit garder son livre et les congédier sans les avoir secourus. » De ce nom de « nos mères », il désignait toutes les femmes qui avaient donné à l'ordre un de leurs fils. Parfois aussi, à la portioncule, l'Église fut menacée de perdre ses ornements d'autel. Pour procurer des aliments aux nombreux frères qui ne cessaient point d'arriver, Pierre de Catigny avait proposé que les novices, désormais, n'abandonnassent plus aux pauvres tous leurs biens, ainsi qu'il le faisait jusque-là, mais qu'une partie de ses biens fut réservée pour les besoins de l'ordre. Mais François se refusa énergiquement à rien entendre de pareil, déclarant que cela était défendu par la règle, sur quoi le vicaire, à bout d'idées, lui demanda ce qu'il devait faire. « Eh bien, écoute, répondit François, prends les ornements de l'autel et va les vendre, car il vaut bien mieux avoir un autel nu et suivre l'Évangile que d'avoir un autel richement orné et de désobéir à l'Évangile. » Ainsi, François tâchait par tous les moyens à maintenir la pureté de sa voix et à suivre l'Évangile en réalité et non pas seulement dans l'apparence. Aussi n'y avait-il rien qui l'irritât plus vivement que de découvrir que ses frères faisaient mauvais usage des aumônes mendiées au nom de Dieu et les dépensaient d'une manière qui ne convenait pas à de véritables pauvres. Le fameux évêque de Mayence, Quételer, étant un jour entré chez des gens qui ne vivaient que de sa charité, les avait trouvés attablés devant une oie rôtie et de bon vin, sur quoi il s'était borné à dire qu'il se réjouissait de voir que ces dons eussent valu à ces gens une agréable soirée. Mais François, en pareille circonstance, se montrait beaucoup moins indulgent. C'est ainsi que, un certain lundi de Pâques, les frères du couvent de Greccio, à la fois en l'honneur de la fête du jour et pour célébrer la visite d'un ministre qui se trouvait parmi les autres, avaient recouvert leur table d'une belle nappe et y avaient posé des verres au lieu des gobelets habituels. Un peu avant midi, François arrive à son tour et découvre tous ses préparatifs. Avec précaution, il se glisse dehors, se coiffe d'un vieux chapeau qu'un mendiant a laissé tomber, et puis revient frapper à la porte un bâton à la main lorsque déjà les frères se sont assis à table. Et de la voix la plus plaintive, il s'écrie devant la porte. « Père l'amour, dit messire domit, nedio, faciate, eli mocina, acisto povero, ed infirma, peregrino. » Pour l'amour de Dieu, faites l'aumône à un pauvre pèlerin malade. Sur l'invitation amicale des frères, François entre au réfectoire. Et aussitôt, tous le reconnaissent, mais personne n'ose le faire paraître. Le prétendu mendiant s'assoit à terre près du feu et commence à manger la soupe et la tranche de pain qu'on lui a apportée. Pas un des frères ne dit un mot et pas un n'a le courage d'avaler une bouchée. Car comment s'arranger d'être assis là autour d'une table élégamment couverte pendant que le maître François, comme un frère de Cendrillon, se tient là-bas dans un coin sombre avec son assiette sur les genoux. Mais bientôt François lui aussi dépose sa cuillère et dit comme s'il se parlait qu'à soi seul. Maintenant au moins je suis assis de la façon qui convient à un frère mineur. Mais tout à l'heure quand je suis entré et que j'ai vu cette belle table, je ne pouvais pas croire que je me trouvasse chez de pauvres frères forcés d'aller sur les routes pour mendier leur pain de porte en porte. Et alors les frères ne peuvent plus se contenir. Quelques-uns fondent en larmes, mais tous se lèvent et viennent demander leur pardon à leur maître. Cette scène fait songer à un autre épisode, non moins caractéristique. C'était le temps de la Noël, et François était assis à table avec ses frères. Tout à coup, l'un de ceux-ci se mit à dire dans quelles misérables circonstances l'enfant Jésus est né et combien Marie a dû souffrir à l'idée d'avoir à enfanter son fils dans une étable sans avoir d'autre lit pour lui qu'une crèche, d'autres couvertures ni d'autres oreillers que du foin et de la paille, d'autres chaleurs par cette froide nuit d'hiver que le souffle du bœuf et de l'âne sur l'enfant nouveau-né. Et François restait assis et écoutait en silence. Puis brusquement, le voici qui se mit à pleurer et qui va s'asseoir avec son pain sur la terre froide afin de ne pas être plus à l'aise que l'ont été Jésus et Marie. Mais au reste, il s'était si profondément déshabitué de toute espèce de bien-être que celui-ci avait fini par lui devenir pénible au lieu de lui être agréable. Ainsi, les frères de Greccio, au sortir d'une opération qu'il avait subie pour son mal Dieu et qui avait consisté à lui brûler les temples avec un fer rouge, avaient obtenu de lui qu'il acceptât un oreiller pour y reposer sa tête pendant la nuit. Mais le matin suivant, François, en les abordant, leur dit « Frères, figurez-vous que votre maudit oreiller m'a empêché de dormir. Tout tournait autour de moi et mes jambes tremblaient. Je crois bien que c'est le diable qui est dans cet oreiller. » Sur quoi il ordonna à l'un des frères d'aller enlever l'oreiller avec précaution et de le jeter derrière soi sans se retourner. Ce n'était point la seule fois que le saint s'était cru poursuivi par les pouvoirs des ténèbres. Souvent le soir, pendant qu'il priait dans la solitude d'une église déserte ou d'un ermitage, Il avait soudain l'impression que quelqu'un se tenait derrière lui, que des pas rapides et légers glissaient autour de lui, ou qu'une tête horrible regardait par-dessus son épaule et tâchait à lire dans son livre. Tantôt, lorsque la tempête rugissait dans les hautes forêts, il entendait des voix qui l'appelaient. Tantôt, lorsque le hibou criait près de sa cellule, il s'imaginait que les démons se moquaient de lui. Mais rien ne lui était aussi effrayant et intolérable qu'un murmure à peine sensible qui lui semblait entendre à son oreille dans le silence de mort de ses veilles nocturnes, comme si des lèvres pleines de raillerie et de haine lui disaient tout bas « Tout cela est peine perdue, François. Prie et implore autant que tu voudras. C'est tout de même à moi que tu appartiens. » Alors le pauvre François luttait désespérément pour sa vie éternelle, et les frères, le lendemain matin, en s'approchant de lui, le trouvaient blême et émacié, anéanti de son combat contre les forces mauvaises. « C'est que toujours il me semble que je suis le plus grand pécheur qu'il y ait eu au monde, » expliqua-t-il un matin, après une de ses nuits aux frères pacifiques. Mais au même instant, l'ex-poète aperçut dans une vision le ciel ouvert avec un trône vide entouré d'anges, et une voix lui apprit que c'était le trône dont Lucifer avait été précipité et que Dieu maintenant le réservait à François en récompense de sa merveilleuse humilité. »